Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Ta parole dit que tu cherches de vrais adorateurs qui t'adoreront en esprit.
Alors, le comité de la Convention chrétienne des Cévennes a choisi pour cette année le thème « Dieu nous propose des racines et des ailes ». Vous êtes déjà au courant. Et je crois que ce thème, avant même qu'une émission de télévision l'ait utilisé comme titre, ça vient d'un proverbe chinois que ma femme utilise souvent. Les Chinois disent « Les parents ne peuvent offrir à leurs enfants que des racines et des ailes ». Ça vient de là. Alors c'est vrai que ça paraît contradictoire, des racines d'un côté, figées, et puis des ailes où on s'envole. Mais je crois que l'Évangile nous le dit. Bon, je vais essayer de l'expliquer. Oui, il faut que, effectivement, chaque enfant puisse, avec les racines que le Seigneur lui a données, que ses parents lui ont données, puisse vivre sa vie, devenir lui-même autonome, adulte. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas solidaire. Mais on devient un chrétien autonome. Et souvent, on a l'impression dans nos églises d'avoir trop de chrétiens en culotte courte ou en barboteuse. C'est-à-dire qu'on a fait son catéchisme, on sait un certain nombre de choses, mais on a besoin vraiment d'un papa, ça peut s'appeler le pasteur, le curé, ou quelqu'un qui nous donnera les réponses nécessaires. Et moi, je crois que le Seigneur nous dit « Vous êtes grand ». Je peux vous raconter quelque chose de précis. Je vais vous raconter toute ma vie cet après-midi, mais pas trop. À un moment donné, le problème s'est posé. Où est-ce que je vais? Puisque après 11 ans, j'espère, de bons et loyaux services à Saint-Hippolyte, je pense qu'il était bon qu'un pasteur habite sur place. Donc j'ai donné ma démission sans savoir où j'allais, bien entendu. C'est ça qui fait le charme. Et alors, il y avait deux propositions. Il y avait Limoest ou Lunel. Alors, moi qui suis évangélique, piétiste rétrograde, j'ai demandé au Seigneur, « Seigneur, dis-moi où tu veux que j'aille. » Réponse du Seigneur, « Débrouille-toi, tu es grand. » C'est beaucoup plus difficile à vivre que quand on a une révélation particulière. Parce qu'il faut prendre ses risques. Je ne peux pas dire, « Seigneur, tu as fait une blague en m'envoyant à Lunel, ou tu as fait une blague en ne m'envoyant pas. » Anime, je suis responsable, je prends mes responsabilités. Oui, Dieu veut nous donner à chacun de nous des racines et des ailes. La seule prière que Jésus nous a enseignée, c'est le Notre Père. Ça ne commence pas par « mon grand-père qui est aux cieux ». Vous êtes d'accord? Mon Père qui est aux cieux. Alors, si notre Père céleste veut lui aussi nous donner des racines et des ailes, ça veut dire qu'il veut nous proposer fondation et histoire. On regarde bien d'où on vient, qui on est, mais en même temps, aventure et action. Alors cet après-midi, je vous propose de partager avec moi trois choses. Bon, et tout à l'heure, on disait, il va parler. Non, j'ose espérer qu'au-delà des mots que je vais utiliser, des phrases et des idées, bien entendu que vous entendrez une autre parole que la mienne. Vous entendrez la parole de votre Père, que vous le connaissiez ou pas, que vous l'aimiez beaucoup ou pas. C'est pas ça le plus important. Il y a une parole au-delà de la parole humaine qui doit effectivement retentir, qui vous est proposée. Et alors cet après-midi, peut-être trois thèmes, trois séquences de 20 minutes pour pas trop lasser votre attention. La première, une réflexion sur nos racines, les racines, avec un témoignage personnel que vous ne répéterez pas à l'extérieur quand vous sortirez d'ici. Je vous dis ça en aparté. Un témoignage personnel, c'était de l'humour, concernant la manière dont Dieu m'a enraciné et dans la foi et dans la vie. Peut-être une deuxième chose. Ensuite, les ailes qu'il m'a données, qu'il m'a proposées, qu'il m'a permis d'accepter pour considérer les événements avec un peu d'altitude. Et les aventures qu'il m'a permis de vivre. Et je n'ai pas fini. Il n'a pas fini non plus. Bon, et pardonnez-moi, bien entendu, si les événements sont un peu personnels. Mais le thème qui est central pour moi, au niveau de ma foi, soli deo gloria. Une fois que vous avez fait tout ce que vous deviez faire, une fois que vous avez fait tout ce que vous deviez faire. Levez la main ceux qui ont fait tout ce qu'ils devaient faire. Sachez dire, nous sommes des serviteurs inutiles. Je trouve génial l'humour du Seigneur. Il nous demande de bosser, de bourrer, de marcher, etc. Mais en même temps, surtout que ça ne vous monte pas la gorge. Non, c'est le Seigneur qui a tout fait. Vous savez, on peut dire, quand on fait de l'évangélisation, quand on essaye de témoigner de l'évangile à l'extérieur, bon, on dit aux gens, vous avez une décision à prendre. Mais surtout, il ne faut pas oublier de leur dire après que la décision a été prise, par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui a suscité en vous le vouloir et le faire. Il n'y a pas d'incompatibilité entre en même temps la souveraineté totale de Dieu et la liberté totale qu'il nous accorde. Et puis ensuite, troisième chose, j'aurai le culot et la simplicité. Je vais essayer de ne pas être trop grossier, mais ça, ce n'est pas des termes très grossiers. Culot et simplicité pour vous encourager fraternellement, vous stimuler, je l'espère, à décoller. Nous qui sommes trop souvent enlisés ou embourbés au niveau de notre vie d'église locale. On a l'impression qu'on dépense beaucoup d'énergie pour que l'église locale survive. Elle n'est pas là pour survivre. Si le grain ne meurt, alors ça c'est aussi provoque, hein, si le grain ne meurt. Non, l'église locale est là pour annoncer en temps et hors de temps, par tous les moyens possibles et imaginables, la grâce et l'amour de Dieu pour tous les hommes, toutes les femmes, tous les vieillards, tous les enfants que nous rencontrons, que le Seigneur met sur notre route. Et c'est lui qui peut nous donner la parole. C'est lui qui peut nous donner cette parole, tout d'un coup, qui va déclencher, tout d'un coup, un clash, un tilt dans notre tête, pour dire, mais oui, mais c'est bien sûr, mais pourquoi je n'avais pas compris avant? Vous savez, vous êtes face à un problème de géométrie, vous tournez pendant 2 heures autour. Vous dites, mais c'est pas possible, on n'arrive pas à résoudre le problème. Et puis tout d'un coup, vous avez un déclic. Mais oui, mais c'est bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Le problème est toujours identique. Mais simplement, à un moment donné, il y a eu un déclic dans vos neurones intellectuels, dans votre tête, et pouf, c'est possible. Au niveau de la foi, c'est pareil. Oui, mais Seigneur, si t'existais, pourquoi les guerres? Pourquoi si? Pourquoi la maladie? Pourquoi? Et puis à un moment donné, au-delà de notre compréhension humaine, intellectuelle, on est dans un pays intellectuel, pourquoi pas, tout d'un coup, il y a un déclic qui se passe. Mais oui, il est vivant. Mais oui, il m'aime. Alors je crois que ça sera le troisième point de notre période de décollage. Donc je vous invite à attacher vos ceintures. Bon, et on a déjà entendu de tellement bonnes choses au cours de cette fête de l'Évangile, des témoignages extraordinaires et simples. Pas des témoignages, vous savez, il y a des témoignages, finalement, on ne sait pas si le centre de gravité, c'est le Seigneur ou la personne qui témoigne. Bon, il faut se méfier de ça. Non, soli deo gloria. Alors, on va commencer par le commencement, les racines. Vous connaissez un certain nombre de textes bibliques qui parlent de racines, un certain nombre de passages qui utilisent le mot racine ou enraciné. La petite plante plantée par le semeur divin, qui se dessèche faute de racines. Le figuier qui, sur une parole de Jésus, devient sec jusqu'aux racines. Mais également l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Les exhortations de Paul aux Colossiens, afin qu'ils soient enracinés et fondés dans la foi. Et peut-être vous avez quelques souvenirs de ce texte de Matthieu, que Matthieu nous rapporte, où il est question de racines, fondations, pour qu'une maison résiste à la tempête et au temps. Peut-être que la parabole du cep et du sarment peut nous parler plus facilement dans nos régions viticoles. Le cep, c'est l'émanation au grand air des racines souterraines de la vigne. Les sarments ne peuvent vivre, ça vous l'avez lu déjà quelque part, que s'ils sont en contact intime avec le cep. Une des maladies des racines de la vigne, qui touche de façon irréversible, c'est ce qu'on appelle la maladie cournouée. C'est-à-dire que c'est un virus qui attaque les racines de la vigne, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus qu'à attendre que tout meure, il n'y a plus qu'à arracher la vigne, labourer en profondeur, prendre tous les petits bouts de racines qui sont dans la terre, les brûler et attendre quelques années avant de replanter une vigne. Bien entendu, le CEP que nous connaissons, lui, est inattaquable par le Cournoué. Mais est-ce que nos racines spirituelles, la manière dont nous avons l'habitude de parler de notre passé, peut-être ça peut nous expliquer la parole de Paul, enracinée dans l'Évangile. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, même si mon être matériel, visible, éphémère, se détruit, peu à peu, mon être spirituel se renouvelle de jour en jour. C'est Paul qui disait ça, mais Paul n'était pas dans une situation ça baignait, c'était à l'aise, on faisait la fête de l'Évangile à la Grand Combe, il y avait des gens sympathiques qui étaient là. Non, c'était dans une situation très difficile, très délicate. En même temps, quand on a une vision un peu, euphorique des églises du temps de Paul, il suffit de lire les épîtres pour s'apercevoir que ces chrétiens de cette époque vivaient des difficultés diverses et variées. Lisez le premier épître aux Corinthiens. Effectivement, il y avait de la zizanie dans l'église, il y avait des querelles, il y avait un tas de choses. Donc, on n'a pas à avoir une vision. Seigneur, aujourd'hui, qu'est-ce que tu me demandes d'être et de faire dans mon église? Qu'est-ce que tu me donnes comme mission pour que je puisse, là où je suis placé, avec les dons que tu m'as accordés, être ton serviteur? Oui, sans racines solides, mais des racines, j'allais dire, pas uniquement historiques, des racines spirituelles. Bon, on peut être que des fétus de paille ballottés par le vent, les doctrines, les modes de notre temps, voire même nos modes théologiques, qui vont raconter qu'il y a un certain nombre de choses qu'il ne faut plus croire parce que, machin. Alors, il y a des gens qui vous expliquent ça très bien. Ça rime à rien. Alors, simplement, il faut être psychorigide. Vous savez, une fois, on m'avait dit, t'es psychorigide. Le psychorigide, c'est celui qui est complètement rigide dans sa tête. Un seul chemin, Jésus, est-ce le vôtre? Moi, ça me suffit. C'est pas la peine de faire du truc sophistiqué autour. Sans Jésus-Christ, vous êtes cuit. Avec Jésus-Christ, vous avez la vie. Voilà, on résume très simplement la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors quand les temps changent, que les modes changent, se renouvellent, on a toujours tendance à faire l'inverse de l'exhortation que Paul nous donne. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer par un changement complet de votre intelligence. Vous pourrez alors comprendre ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Quelqu'un disait, là, c'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent qui a changé de sens. Mais je dis, il faudrait que nous, on indique toujours la même direction, quel que soit le vent de la mode. Un seul chemin, Jésus, est-ce le vôtre? Alors on peut le dire gentiment, fraternellement, sympathiquement, c'est pas la peine d'agresser les gens, hein. L'autre jour, on est allé dans les bistrots, pour inviter les gens là. Depuis l'expérience qu'on a fait à Saint-Hippolyte, entre autres, on ne voit pas de regard narquois, parce qu'on a peur. Mais qu'est-ce qu'ils vont penser de nous, qu'on est complètement rétro, qu'on est complètement à côté de la plaque, qu'on n'est plus à la mode, que machin, mais Dieu, quoi. Un seul chemin, Jésus, est-ce le vôtre? Restons là-dessus. Alors ça, c'est vraiment nos racines. Il faut s'asseoir dessus et ne plus bouger. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est pas la peine de sophistiquer trop. Alors j'aime bien les théologiens, mais de temps en temps je prie pour que le Seigneur en supprime un certain ton, un certain nombre. Fraternellement quand même. Non, soyons pas sadiques. Alors je vais vous faire une confidence qu'il faut surtout ne pas répéter. Promis. J'ai été durant ma jeunesse un être déraciné, ce qui signifie déboussolé. Vous avez remarqué que j'ai un nom un peu curieux, d'accord? Il y en a d'autres qui ont des noms curieux aussi, mais on fait avec. Alors mon nom commence par H-A-D-J, H-A-D-J, Hadj, c'est celui qui a fait le pèlerinage à la Mecque. Alors mon grand-père était d'origine caucasienne, né en Turquie. Alors, vous voyez, bon, c'était avant la Révolution, bon, enfin, c'était un peu compliqué. Et ma mère est née en Dordogne. Et quand je suis né juste avant la guerre en 39, vous savez donc mon âge, ils n'ont pas pu assumer. Mon père était un déraciné, bien entendu, par les Russes, par les Français aussi, et épousé donc, son épouse était de Dordogne. Ils n'arrivaient pas à assumer. Troisième enfant. Donc j'ai été adopté par la sœur de mon père. Et à cette époque, c'était pas la mode. On tentait de cacher à l'enfant, on lui disait pas la vérité, parce qu'on pensait que ça risquait de le traumatiser. Donc, pour lui pas lui faire de la peine, on lui disait rien. Mais l'enfant, il est pas idiot. Petit à petit, il comprend des choses. Et alors, je soupçonnais qu'il y avait quelque chose de honteux, quelque part, dans ma vie. Pourtant, il y avait rien d'honteux. Mais comment on en parlait pas? Alors, en plus, des déménagements assez fréquents, donc des amis, des copains à cette époque, pas copines. Bon, alors on perd de vue parce qu'on n'est plus là. Une mère seule, pas d'image paternelle, peu de moyens financiers et personne à qui en parler. Et c'est là que j'ai expérimenté l'adage qui dit « s'il n'y a pas de père, il n'y a pas de repère ». Ça veut dire effectivement que si dans notre vie spirituelle, notre père n'est pas quelqu'un avec qui on peut parler des choses qui nous angoissent, des choses qui sont difficiles à vivre, des choses où on a l'impression d'avoir fait des blagues, des choses où on a l'impression de l'avoir trahi. Je veux dire, on n'a plus de repères. Un père, c'est quelqu'un qui sait écouter. C'est quelqu'un qui est à l'écoute. Et le Seigneur, je pense, nous demande, nous, à nous chrétiens, bon, d'être à l'écoute. Les témoignages d'hier nous l'ont dit en long, en large et en travers. Ça démarre par l'écoute. Alors je me suis retrouvé en sixième interne à 50 kilomètres de la maison où provisoirement nous habitions, rentrant tous les 15 jours quelques heures, sauf col bien entendu, parce que j'étais moyen élève, un peu dissipé et un peu insupportable. Bon ça je comprends, bah oui mais tout s'explique, hein. Alors, bien entendu, je trouve mes questions existentielles mineures par rapport à ce qu'on voit autour de nous. Bon, les familles chrétiennes en pays musulman. Les enfants de Mexico obligés d'aller regarder dans les poubelles ou dans les décharges pour pouvoir manger. Le siècle dernier qui envoyait gaiement, sans problème de conscience, des enfants de 12 ans au fond de la mine. Alors, je veux dire, nos problèmes existentiels, nous, je dis, il faut arriver à les relativiser. Alors si quelqu'un a jamais eu des problèmes de ce type, bah, qu'il remercie le Seigneur. Alors s'il y avait eu à cette époque, comme maintenant, des psychiatres, des psychologues, des psychanalystes, bon j'en ai épousé une, ça m'a aidé, peut-être. Bon, ben ils auraient dit, t'as un problème d'identité, tu sais pas qui tu es. Est-ce que t'es russe ou t'es français? Parce que dans la famille, on parlait de la Sainte-Russie. Alors là, ça faisait fort. Hein. Moi, je ne voulais pas être russe, je voulais être français. J'avais des copains français, j'étais à l'école française. Alors on me dit, mais non, t'es russe. Alors bon, l'ambiguïté. Qui sont mes parents? Pourquoi mon père ou mon grand-père maternel a-t-il quitté la Russie? Personne ne pouvait m'expliquer. Alors je suis en train de faire une enquête sérieuse. Maintenant, je suis capable de faire une enquête sérieuse. Pour savoir un peu ce qui s'est passé réellement. Parce que sinon, on fantasme sur le passé. Et puis on me présentait, oui, avec vénération, cette Russie, etc. Et puis je n'avais pas de lieu. Vous avez tous lu, j'espère. J'aurais dû le dire à Lucien avant, d'ailleurs. Paul Tournier a écrit un livre qui a pour titre « L'homme et son lieu ». Le lieu, ce n'est pas le lieu qui nous appartient obligatoirement. C'est un lieu où on sait où on habite. On sait qu'on va être accueilli. On sait qu'il peut rentrer sans prendre rendez-vous. Et la conclusion pour moi, c'était, j'ai plus de racines. J'ai plus de racines, je suis déraciné, je sais pas où j'habite, etc. Et puis c'est un jour un enfant français d'origine algérienne qui me disait, qu'est-ce que tu veux? Quand je suis en France, on me traite de sale algérien, ou de sale arabe. Mais quand je suis en Algérie, on me traite de sale français. C'est difficile à vivre, ces choses-là. Pour un gamin, Parce que sinon, on a plus d'identité, on n'a plus de lieu. Alors je crois qu'il faut avoir compassion, même si c'est un peu difficile, parfois, bah oui, de ces gens déracinés. Notre pays est confronté, j'allais dire, à tous ces gens qui sont venus pour manger, certains pour fuir la guerre, la persécution, etc. Mais en même temps, qui ne parlent pas notre langue, qui ont des habitudes diverses et variées, qui sont étrangères à nos habitudes, à nous. Et je crois qu'il faut avoir vraiment que le Seigneur nous donne compassion et en même temps peut-être encourager toutes ces œuvres chrétiennes, évangéliques, bon, qui essayent de témoigner au milieu de cette population immigrée, effectivement, de la joie et de leur foi et de leur joie. Souvent on se dit, ben, ça ne sert à rien d'annoncer l'évangile aux musulmans parce que, etc. Alors moi, adjet lâché, moi je dis si. Il faut annoncer l'évangile aux musulmans. Non pas qu'on les méprise parce qu'ils sont musulmans, sinon vous m'auriez foutu à la porte déjà. Non, parce que le Seigneur les aime et que le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Alors c'est difficile d'assumer deux cultures, deux histoires, des racines qui s'écartent les unes des autres jusqu'au moment où il faut trouver son équilibre. Mais l'équilibre est arrivé. Jésus est arrivé. Pire que Zorro. Vous savez, Zorro, il paraît, quand il arrive, il règle les problèmes. En tout cas, à la pointe de l'épée, ta-ta-ta-ta, hein, il y a eu des films, là, hein. Alors, il m'a révélé mon identité réelle. Fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Rien que pour ça. Rien que ça. Il m'a permis d'apprendre qu'au-delà des aléas humains, j'avais un Père céleste qui, lui, ne change pas. Et n'abandonne pas ses enfants. Quelles que soient les circonstances, Jésus est le Père, Dieu, Seigneur, est présent, au-delà des aléas. Il m'a révélé également que j'avais un chez-moi. Oui, ma maison, je l'ai découvert. J'habite provisoirement à Calvisson, hein, à côté de Nîmes. Mais ce n'est pas ma maison, c'est une maison provisoire. Non! Moi, j'ai une maison dans le royaume. Le Seigneur me l'a dit. Je vais vous réserver une place. Mais le Seigneur ne dit pas n'importe quoi. Alors, si on a des problèmes d'identité, si on a des problèmes de lieu, Seigneur, qui suis-je? Où j'habite? J'ai peur, je ne sais plus, etc., etc. Le Seigneur répond. Le Seigneur nous répond. Il m'a fallu, malgré l'amour de mon épouse, qui était, j'allais dire, la cerise sur le gâteau. Je peux le dire parce qu'elle n'est pas là. Parce que peut-être, si je la compare à une cerise, peut-être elle ne sera pas d'accord. Bon. Mais c'était la cerise sur le gâteau. Alors le gâteau, il y était. Ça y est, j'avais tout compris. Mais il m'a fallu 30 ans. 30 ans pour arriver à en parler. Il y a 20 ans, j'aurais jamais pu vous dire ce que je dis. Il a fallu digérer. Alors le Seigneur a pris le temps. Bon, il m'a donné les moyens, j'allais dire, de digérer. C'est pour ça que je peux en parler. Mais je veux dire, parmi vous, parmi nous, qui n'a pas vécu des choses comme ça? Pas tout le monde, j'espère. Mais des fois, on voit des choses quand même curieuses dans un ministère pastoral. Des familles unies, ça paraît nickel. On est même conseiller presbytéral, ancien dans l'église. Et puis, on découvre un jour, par hasard ou par coïncidence, des vies bousillées où l'apparence, je veux dire, c'est comme les enfants à l'école primaire qui connaissent la table de multiplication, ils se rappellent l'air mais plus les paroles. Or on fait tout, on a l'apparence du chrétien Canada Dry, quoi. Le chrétien Canada Dry. L'apparence de l'alcool, le goût de l'alcool, l'odeur de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Eh bien, au niveau de notre foi, parfois ça arrive. Et c'est chacun de nous, je veux dire, c'est pas à nous de régenter ou de pénétrer des vies quand les gens n'ouvrent pas la porte. Pour aider. Mon témoignage, c'est pas pour dire voilà ce que j'ai vécu. Mon témoignage, c'est pour dire si quelqu'un parmi vous a vécu des choses, pas identiques bien entendu, mais qui ressemblent, qui demandent au Seigneur de vous donner le gâteau, de vous donner la réponse, de vous donner la sérénité au-delà de ce que vous avez pu... Les traumatismes de poussette, vous savez ce que c'est, hein? Les psychanalystes utilisent beaucoup. C'est-à-dire que notre petite enfance a été marquée peut-être par des traumatismes, des incompréhensions, des choses comme ça. Et ça nous reste. Ça nous reste. Comment s'en débarrasser? Alors c'est vrai que, j'en profite, ma femme n'est pas là. Ou vous faites une cure psychanalytique, ça dure longtemps et ça coûte cher, ou vous adressez directement au Seigneur, c'est plus rapide et ça coûte beaucoup moins cher. Mais simplement, le Seigneur va vous dire, « Ok, tu me demandes mon aide, mais moi je te demande ton aide aussi, échange de bons procédés quand même. » En se convertir, ou plutôt se laisser convertir, moi ça m'excite quand des gens me disent « Je me suis converti. » Je suis réformé, excusez-moi. Mais c'est comme s'il disait, je me suis accouché. Ben non, le Seigneur a permis que je me convertisse. Bon, c'est pas moi qui ai fabriqué la chose. Alors c'est parfois cataclysmique, je disais tout à l'heure, comme Paul sur le chemin de Damas. Il n'a pas eu le choix, le chéri, là. Hein? Tombe de cheval, il est aveugle, il entend des voix, bon, etc. Ça peut arriver, le Seigneur a le droit. Mais en général... C'est une œuvre de longue haleine. Vous savez, nous, on aimerait bien évangéliste, pasteur, ancien. On aimerait bien que quand on parle de l'évangile, boum, ça réagisse, quart de poil, tout de suite. Que les gens disent, oui, je suis pécheur, paf, je me mets à genoux, tac. Bon, on n'est pas dans une civilisation, en tout cas en France, qui permet des choses comme ça. Il paraît qu'aux États-Unis, c'est possible. Le problème, c'est que j'aimerais bien savoir combien de temps ça dure. Parce que il faut laisser du temps au temps, à ce niveau-là. Hein, que les choses grandissent. Peut-être la germination est un bon exemple, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est le Seigneur. Oui, il faut du temps pour que le blé pousse. Si tous les matins je vais dans mon champ pour voir si le blé pousse et je tire sur la petite pousse verte pour voir si elle a poussé, au bout d'un certain temps j'aurai plus de blé, hein. Non, avoir la patience. Alors la patience, pareil. Vous êtes patient, vous? Ça dépend des jours, hein. Ça dépend des... Non, la patience, c'est un fruit de l'esprit. On a beau dire, Seigneur, rends-moi patient, rends-moi patient. On s'impatiente parce qu'il ne nous rend pas patient. Alors non, c'est le Seigneur qui peut nous donner ce fruit, le fruit de l'esprit. Alors, il faut du temps aussi pour cicatriser. Vous avez remarqué, si vous coupez, si vous brûlez, c'est pas du jour au lendemain que... Non, il faut laisser du temps. Nous qui sommes des excités permanents, on vit dans une civilisation d'excités, vous l'avez remarqué. On n'a pas le temps de rien. Plus les trains vont vite, et moins on a de temps. Plus les avions volent vite, moins on a de temps. Plus on a des moyens de communication sophistiqués, portables, machins, comment ça s'appelle, Internet, et tout. On a de moins en moins de temps. J'ai pas le temps. Donc je vous propose un stage de 8 jours à la communauté de Pomerol, par exemple. Prendre le temps, pourquoi pas. Quelqu'un me disait, mais ça va pas bien. J'ai dit, écoute, 2 solutions, ou les sœurs de Pomerol, ou les trappistes. 8 jours, calmos, silence. Ben, ça serait peut-être une bonne solution. Ça coûte pas cher en plus. Hein. Non, c'est le Seigneur qui nous convertit. C'est le Seigneur qui met, j'allais dire, les points, les plots, etc. Et puis, tout d'un coup, on va se dire, mais c'est aligné. Vous savez, pour rentrer dans un port la nuit, comment on fait? J'ai l'image. Ben oui, il y a des phares et balises. Il faut les aligner quand même un peu. Parce que si on vous dit, alignez le feu rouge, le feu vert et le feu bleu, et puis que vous avez le feu vert, le feu rouge et le feu bleu, et que vous foncez droit devant, il y a 90 chances sur 100 que vous n'arriviez pas au fond du port. Il faut les aligner. Comment le Seigneur fait? Eh bien, le Seigneur nous met sur notre chemin, sur notre route, d'abord sa parole, bien entendu. Il met aussi des frères et des sœurs sur notre route. Et puis même des bouquins qui ne sont pas du tout chrétiens peuvent vous donner une idée, quelque chose, vous décliquez là, dans la tête. Et puis les coïncidences. Des coïncidences, mais Seigneur, pourquoi? Alors souvent on dit, Seigneur, pourquoi? Des fois on dit, Seigneur, pourquoi? Pour comprendre. C'est tellement simple. Vous savez, ça crève les yeux, mais on ne le voit plus. C'est tellement, tellement simple. Je dis, l'évangile est d'une certaine manière trop simple. Les gens aimeraient quelque chose de plus sophistiqué. On leur dit, mais c'est facile, Jésus t'aime, il est mort pour toi, il est ressuscité, il est vivant, il peut te parler, la prière, c'est que tu lui parles, il te répond. Trop simple, il faudrait trouver des combines terribles, hein, pour que ça marche. Oui, Dieu n'est pas toujours dans la tempête, ça peut arriver. Non, la petite voix, paisible mais forte, dans un murmure, doux et subtil, vous avez lu ça quelque part? Eh oui, au bout du rouleau, les géants de la foi, vous savez, les karatékas de la foi dans l'Ancien Testament, des gars super costauds, solides. Vous connaissez un roi 18, Élie, les prophètes de Baal, quand même, match de catch spirituel extraordinaire. Alors Élie se dégonfle pas, allez, mettez de l'eau, et priez Baal. Il prie Baal, machin, etc. Alors Élie, alors c'est ça l'humour de la parole de Dieu. Et Lily, alors, votre Dieu, il est en vacances, hein, il coince la bulle, il est au club méditerranéen, où c'est qu'il est, il bouge pas, hein. Bon, vous l'avez lu ce texte. Bon, et puis il dit, bon Seigneur, allez, boum, c'est tombé. Élie, alors c'est vrai qu'à notre époque, égorger 350 prophètes de Baal, bon, ça ferait des ordres dans la commune, hein. Vous voyez, je vais égorger le curé du coin, le rabbin du coin, l'imam du coin. Alors, non, on ne peut plus le faire, là. Hein? Bon, mais en même temps, chapitre 19, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un Élie déphosphaté au bout du rouleau, qui a envie de mourir, un peu comme Jonas à la fin de sa mission, là. Lui, il n'a rien compris au film. Bon, mais le Seigneur nous apprend par Jonas des choses. Il est déphosphaté, il en a ras-le-bol. Il a envie que tout s'arrête, Seigneur. Non, fini, terminé, j'ai donné. Les géants de la foi, nous aimerions bien ressembler aux géants de la foi quelque part. Eh bien, je dis que les géants de la foi sont des fragiles, comme les fragiles peuvent être des géants de la foi. C'est ça l'ambiguïté du message de l'Évangile. C'est quand je suis faible que je suis fort. Bon, là, ça va pas la tête, non? Non mais racontez ça à quelqu'un dans un bistrot un soir. C'est quand je suis faible que je suis fort. Parce que quand je suis faible, je compte plus sur mes forces. Ça veut dire que en tant que chrétien, je sais que je suis faible. Donc il n'y a que le Seigneur qui peut intervenir. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire quelque chose. La prière, c'est quoi? C'est faire pression sur Dieu? Non. Vous savez que les musulmans n'ont pas de prière de demande. Parce qu'ils trouvent que ça serait ne pas respecter Dieu. Ils n'ont que des prières de louange ou Inch'Allah. Et je me dis, peut-être nous, on est tombés au niveau de notre manière de prier, bon, un peu, bon, on n'y arrive plus. Quelqu'un l'a dit, hein, dans les jours qui précèdent. On n'y arrive pas, alors on va demander au Seigneur, hein. Zoro, s'il te plaît. Moi, je dis la prière pour nous, perso, au-delà de tout ce que ça peut faire. C'est nous rappeler que nous ne pouvons rien faire sans lui. Mais à la place de commencer à dire, Seigneur, fais ci, fais ça, parce que bon, Seigneur, si j'étais à ta place, tu sais, j'aurais pas fait comme ça, moi. Hein? Bon, parce qu'envoyer ton fils, hein, se faire fusiller sur une croix, là, crucifié, ben, j'aurais pas fait comme ça. Le Seigneur a son plan. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Le Seigneur est d'une pédagogie extraordinaire vis-à-vis de nous. J'en citerai deux exemples. Une nuit, un monsieur insomniaque vient voir Jésus. Insomniaque. Ou peut-être trouillard. Il s'est dit, si on me voit aller voir Jésus, que vont penser mes collègues? Ça, je crois aussi qu'il faut demander au Seigneur de nous en libérer. Les collègues, on les aime, c'est des frères. Mais ce qui compte, c'est pas comment les collègues nous regardent, c'est comment Dieu nous regarde. C'est ça le plus important. Alors il va voir Nicodème. Bon, alors Seigneur, enfin Maître, nous savons que, vous connaissez l'histoire, il commence à passer la brosse à reluire, quoi. D'accord? Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Et Nicodème a quelques difficultés, il commence à rentrer dans un discours gynécologique. Comment un homme peut rentrer dans le sein de sa mère et renaître, surtout moi qui suis barbu? Alors, comment ça fait? La barbe sort d'abord ou quoi? Ce serait très compliqué. C'est Nicodème, non? C'est le récit. Et Jésus lui dit, non, tu comprends rien au film. Jésus n'a pas commencé à dire à Nicodème, tu es peut-être, tu as ton doctorat en théologie, mais tu es complètement niais au niveau spirituel. Jésus n'a pas commencé à dire ça. Il l'a entendu, il a écouté Nicodème. Et à la place de partir dans une grande discussion du café du commerce, moi, si j'étais chrétien, je serais protestant plutôt que catholique. Vous n'avez pas rencontré des gens qui vous disent ça? Mais ils sont ni protestants, ni catholiques, ni chrétiens, ils n'en ont rien à foutre. Il ne faut pas rentrer dans des discussions. Et Jésus avait l'art, je dis, de la répartie et de prendre à contre-pied. Alors il dit, non, c'est pas ça l'important. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux voir comment naître. Bon, vous voyez tous les problèmes. La Samaritaine, femme, vie sentimentale agitée. D'accord? Tu as eu 7 maris et celui que tu as n'est pas ton mari. Il faisait collection de maris. Enfin, de maris, de futurs maris, de... Bon. On comprend très bien qu'elle soit allée chercher de l'eau en plein cagnard à midi. Parce que les autres bonnes femmes, excusez-moi mesdames, les autres dames du village trouvaient que quand même, ça faisait beaucoup. Parce que les différents maris, etc., c'était quoi? C'était les frères, c'était les maris, c'est bon. Jésus commence pas à lui dire, t'es une prostituée. Commence à lui demander à boire. La pédagogie de Jésus. Extraordinaire. Extraordinaire. Alors la Bible nous apprend, effectivement, à être pédagogue, à pouvoir partager cet évangile. En même temps, en étant psychorigide, je souhaite que vous soyez tous psychorigides. Bon, et en même temps, avec un amour, je veux dire, qui dépasse nos théories ou nos formules. Un amour que Dieu nous donne pour respecter l'autre tel qu'il est. Dieu a tant aimé le monde... Ça veut dire tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants, tous les vieillards, quel que soit le pays, quelle que soit la religion. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, pas à Dieu, au Fils unique, ait la vie éternelle, ne parte pas à la perdition. Ça, c'est un verset quand même qu'il est difficile pour certains de supprimer de la Bible. Alors, certains seraient bien tentés, puisqu'on parle de perdition. Donc, bon, en principe, il n'y aurait plus de perdition. Vous savez, tout est dans tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Bon, là, la Bible ne dit pas exactement la même chose. En même temps, une compassion extraordinaire de Dieu pour l'humanité, et en même temps, une réponse tellement... Moi, je ne vois pas d'autre mot que l'humour de Dieu, le sourire de Dieu, le sourire de Dieu qui nous regarde vivre. Et puis, à des moments, on fait des blagues. Et je dis des fois, bon, il est un peu fâché, c'est vrai, il nous le dit. Mais des fois, il a un petit regard en disant, t'es sûr que c'est bien ce que tu fais? Il ne va pas plus loin. Une histoire, et après on chantera un cantique. C'était quelqu'un qui venait nous aider quand on faisait des camps de formation dans la FEUF. Certains reconnaîtront le personnage, mais je ne vais pas dire le nom. Et alors il venait nous aider, faisant partie d'une JEU, donc ces jeunes équipes unionistes, chez les plus de 16 ans, donc les éclaireurs qui ont grandi. Et alors, très sympathiquement, disant, oui... Bon, on peut venir à 3 ou 4 pour donner un coup de main. Bon. Alors, ils remplissaient les poêles à mazout. Ils étaient drivés par JPO, notre cuisinier. Bon, ils donnaient le coup de main, ce qu'il fallait faire. Et j'ai dit, quand vous avez des temps libres, vous pouvez participer aux camps, aux différents camps qu'il y avait. Alors, il y avait des moments pédagogiques, des moments spirituels, etc. Et il y avait en particulier un culte final à la fin du camp où, effectivement, on proposait aux chefs, cheftaines, éclaireurs, éclaireuses, louveteaux, un engagement. Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de tous les hommes. Il m'appelle à le dire. En réponse à son appel, je m'engage à être chef de troupe à Saint-Hippolyte-du-Fort ou à la Grand-Combe, que Dieu me soit en aide. Donc les gens, on avait dit, liberté totale de manœuvre. Ce n'est pas une pression psychologique qu'on va faire. Ça ne sert à rien, ça ne durera pas. Bon, et il y avait des réunions de prière très tôt, on se couchait très tard et on se levait très tôt. Et alors ceux qui voulaient participer à cette réunion de prière attachaient leur foulard au pied de leur lit. Mais c'était très hard, parce que je crois que c'était 6h30 du matin. C'était très dur. Pour moi, c'était très très dur. Bon, et alors ce gars me disait, je sens, il avait fait son catéchisme, il était protestant, mais il dit, je sens qu'il y a quelque chose, mais je comprends pas. Un jour, il est parti en montagne, faire une course en montagne. Éboulement, il ramasse un caillou sur la tête, un peu comateux. Les copains avec lui l'attachent sur la falaise, vont chercher du secours. Après, il m'a dit, alors maintenant, il est pasteur, président d'un conseil régional de l'ERF. C'est pas une référence, mais bon, ça le situe. Bon, et il m'a dit, en un quart d'heure, tout est revenu, tout, j'ai compris. Et alors moi, j'ai dit, si j'avais su ça, j'aurais pris un pavé, je te l'aurais foutu dans la gueule. Bon, ça aurait été plus... Mais c'était pas le temps du Seigneur. C'était pas le temps du Seigneur. Numéro 417, les trois strophes. Que nous décollions un peu. Alors les ailes, en général, ça sert aux oiseaux pour se déplacer dans les airs. Définition simple. Mais ça sert aussi, c'est nécessaire aux avions, aux planches à voile, aux voiliers, aux planeurs et aux chrétiens. Vous savez que même dans Ésaïe, chapitre 6, il y a des anges qui avaient trois paires d'ailes. Quelqu'un parlait, il dit, moi j'en ai que deux, il y a trop de travail, j'arrive pas à tout faire. Si le Seigneur m'en donnait deux paires de plus, ça irait mieux. Ah non, le Seigneur nous a fait comme on est. Hein. Alors en résumé, l'aile s'appuie sur l'air. Même mot que l'esprit, avec un E majuscule. Le vent souffle où il veut, disait Jésus à Nicodème. Et pour ceux qui ont pratiqué le planeur, c'est quand même un truc assez spirituellement important. Il est simple de comprendre que ce n'est pas le planeur seul qui peut rester en l'air. Son poids, inéluctablement, le fait descendre. Il n'a pas d'hélice, il n'a pas de moteur. Et pourquoi on voit des planeurs qui restent en l'air? Alors c'est assez simple à comprendre. Le planeur est dans une masse d'air, lui il descend quoi qu'il arrive, mais si la masse d'air monte plus vite que la descente du planeur, le planeur, par rapport à la Terre, monte. D'accord? Ça s'appelle une ascendance. C'est pour ça que les planeurs tournent pour essayer de trouver une ascendance, parce que je vous rappelle que c'est l'air chaud qui monte. L'air froid descend. Les anticyclones, etc., c'est basé sur le même principe. Hein. Je veux dire, c'est l'air chaud qui monte, donc si ça monte, ça fait un vide et ça fait une ascendance. D'accord? Ça peut attirer la pluie, ou etc. C'est pas le planeur qui reste en l'air. C'est l'air qui le porte, qui monte plus vite que sa descente naturelle. C'est une jolie parabole thermique et spirituelle. À cause de mon péché, de mes pesanteurs, de mon manque d'intelligence spirituelle, l'homme est obligatoirement condamné à descendre. C'est que le souffle de Dieu, l'esprit divin, l'esprit chaud, j'allais dire, vous vous rappelez les langues de feu quand même à Pentecôte, il n'y a que l'esprit qui peut nous faire monter. Donc par rapport au sol, c'est pas que même avec notre sanctification terrible, notre engagement terrible dans l'Église, que nous montons, c'est que le Seigneur, l'Esprit de Dieu qui nous fait monter. Alors c'est vrai que moins on descend vite et plus l'air chaud souffle, plus vite on monte haut. Mais c'est pas nous qui montons. Et puis quand on est haut, enfin quand on est de plus en plus haut, ben on s'aperçoit qu'on voit les choses autrement. Vous savez, d'avion, on voit quand même les choses quand même autrement que quand on est à ras des pâquerettes, hein, l'arbre qui cache la forêt. Oui, encore faut-il que nous acceptions, c'est-à-dire d'ouvrir les ailes que le Seigneur nous propose, la foi, l'espérance, l'amour. Alors les ailes, ça m'a... où le Seigneur m'a entraîné. Quand j'étais adolescent, je voulais être officier. Des fois, ça se remarque un peu. Il me reste quelques trucs. Bon, ça c'était mon grand projet quand j'étais adolescent. Mais la découverte de l'Évangile et de la personne de Jésus a tout chamboulé. Je vais vous raconter. Les deux leviers qu'il a utilisés, c'est le scoutisme et une mission de réveil dans une petite paroisse de l'Église réformée de France en Savoie. À la fin de la troisième réunion, et je peux citer le nom de l'orateur ou de l'intervenant, plutôt de l'ange que le Seigneur avait envoyé, Maurice Ray, ancien responsable de la Ligue pour la lecture de la Bible en Suisse, à la troisième réunion, je pouvais dire, les larmes aux yeux, mais avec un sourire extraordinaire, je pense, je suis chrétien. Ah, le Seigneur a des trucs. C'était ma mère qui m'avait entraîné dans ce milieu malfamé, en disant, mais c'est pas mal, tu verras, c'est des réunions, c'est sympa, tout. Je suis allé pour lui faire plaisir. Bon, moi, je disais, bon, la foi chrétienne, ou les chrétiens, ou le christianisme, bon, toutes les façons, si ça fait pas de bien, ça fait pas de mal. Et puis, deuxièmement, ça fait plaisir quand même aux mémés subclaquantes, hein, ou aux pépés en état de coma dépassé. Hein, ça peut leur faire plaisir. Bah, écoute, soyons pas méchants. Alors, moi, c'était pour moi, la foi chrétienne, c'était ça. Puis j'avais entendu parler de la religion. Bon, j'ai dit, oh bon, ben, si ça aide quelqu'un à être religieux, soyez religieux, les mecs. Mais bon, c'est pas mon truc. Hein. Alors bon, voilà, tout d'un coup, découverte de l'évangile, etc. Alors à la fin, je me suis dit, facile, Seigneur. J'ai compris, ma vie est à disposition, je serai un officier chrétien. J'avais trouvé la logique du système, quand même. Hein. Ouais, mais... Alors j'avais fait la préparation militaire supérieure, la préparation militaire parachutiste, c'est pour ça que je pourrais vous parler de parachute tout à l'heure. Ça me donnait quelques points d'avance pour le concours de Saint-Cyr. Bon, et puis j'avais fait, après mes deux bacs, parce que j'ai passé deux secondes parties, parce que j'avais une copine qui avait réussi avant moi, donc j'ai dit, je vais être plus fort qu'elle, donc j'avais présenté, ça se passait à cette époque, on pouvait le faire en juillet, je sais pas quoi, sciences ex, et puis en septembre, philo. Bon. Alors après, j'étais très fier devant ma copine, quoi. Hein? Et t'as vu? Qu'est-ce que je suis bon, hein? Bon, alors moi, je préparais Saint-Cyr. Préparais à partir à Lyon, à Saint-Cyr. Et puis tout d'un coup, un truc cataclysmique, pareil, rebelote. Le Seigneur, tu seras pasteur. Attends, j'ai dit, attends, Seigneur, attends. Attends, tu te trompes pas d'adresse, t'es sûr de toi? Parce que pour moi, pasteur, c'était... Je crois que ça n'existe pas. J'ai dit, non mais oh, ça va pas, non? Bon... Mais comme j'avais ce tempérament, que je crois que j'ai un peu gardé, ben je me suis mis au garde à vous, j'ai dit « oui, chef ». Ben oui, parce que la foi chrétienne, c'est quand même, il y a un chef. Il y a le Seigneur qui nous aime, qui est notre père, notre frère et tout et tout. Oui, chef. À mon avis, tu fais une connerie, mais je vais y aller. Alors, bon, qu'est-ce que je vais faire? Facile. Pasteur, d'accord. Dans l'armée, ça s'appelle aumônier militaire. Je ne lâchais pas mes billes. Et puis ensuite, oh ben ça empirait en plus. Le Seigneur persévère dans ses appels. Alors j'avais une quasi-vénération pour la chose militaire. Mais le Seigneur a trouvé que ça me prenait trop de temps. Que finalement c'était en balance avec son service à lui et le service, bon, de l'évangile auquel il m'appelait. Alors il m'a dit, tu seras objecteur de conscience. Alors là, j'ai commencé à craquer. Parce que j'ai dit, attends, Seigneur, non, attends, bon, chrétien, bon, oui, ok, c'est vrai. Pasteur, oui, ok, c'est vrai. Non mais objecteur, pourquoi? Parce que ça prend trop de place dans ta vie. Moi j'ai plus de place, tu penses qu'à ça? Il faut me débarrasser. Alors c'était pas du tout de l'antimilitarisme primaire, pas du tout. Mais le Seigneur m'a dit, ça prend trop de place dans ta vie, faut que tu largues. Alors là, c'était difficile d'être aumônier militaire quand on est objecteur. Alors j'ai dit, bon, soumission au général en chef, oui chef, à tes ordres. Ben, il y avait que ça à faire, hein. Alors je suis parti au service civil. Donc c'était une époque où le statut venait de passer. Alors le service durait le double, 32 mois. J'avais déjà un enfant. Le 1er avril, la première fois que j'étais là à ce service civil à Brignoles, coup de téléphone, on téléphone, t'as une fille. Ah bon? Bon, eh ben oui, t'as 3 jours de permission. Ah bon, d'accord, ben, j'y vais. Donc c'était notre deuxième fille qui arrivait, 1er avril, gag. Bon, alors j'ai été objecteur. À un moment donné, vraiment, les autorités ne savaient plus quoi faire des objecteurs. Parce que là-dedans, il y avait tout. J'ai fréquenté le fils du Christ de Montfavet, qui était objecteur. Ton papa va bien? Bon, c'était... un peu gag, hein, quand même. Des témoins de Jéhovah, des anarchistes non-violents, voire des anarchistes violents. Il y avait de tout. Il y avait de tout. Ils ne savaient plus quoi faire de nous. Et alors, on s'est retrouvés à 4 ou 5, à un moment donné, dans le bureau du préfet de la protection civile à Paris. Il me dit, j'ai envie de vous envoyer, parce qu'on avait, comme ils ne savaient pas quoi faire de nous, en tout cas, les gens un peu sérieux, quoi. On avait fait tous les stages possibles et imaginables. Sauvetage d'éblaiement, secours routier, enfin tout, réanimation, tout. On avait tous les diplômes. Si, école de sapeurs-pompiers, bien entendu, ça nous bouffait 3 mois, alors ils nous avaient balancé là-dedans. Donc on avait tous les titres qu'ils voulaient. J'ai envie de vous envoyer pour former les sapeurs-pompiers, secouristes, etc., sur la Nationale 7. À ce moment-là, il n'y avait pas l'autoroute. Bon, alors je dis, mais monsieur le préfet, moi je suis d'accord. Elle me dit, pourquoi? Parce que ma femme travaille à l'hôpital d'Avignon, moi ça m'arrangerait très bien. Vous êtes versé à Avignon. Bon, d'où? Un mois après, j'étais à la préfecture d'Avignon. Objecteur. Le colonel des pompiers était super. Parce que lui, il était civil. Vous savez que les pompiers, il y a des militaires. Bon, par exemple, le régiment de Paris. Bon, ou le régiment, plutôt la brigade maintenant de région parisienne. Ou les marins-pompiers de Marseille. Mais tout le reste, c'est des civils. Alors lui, il était colonel civil. Pompier. Il dirigeait tout le Vaucluse. Bon, on a très sympathisé, et puis il m'a dit, bon, bah, écoute, je vais te confier des grosses responsabilités à des moments, mais alors il faudrait que tu mettes un uniforme. J'ai dit, moi, je suis pas contre l'uniforme, c'était pas ça. Donc il m'a fait faire un uniforme où il n'y avait pas d'épaulettes. Donc les pompiers qui me voyaient arriver, envoyés par le colonel, ne savaient pas qui j'étais, ni le grade que j'avais. Et mais c'est qui ce mec qui arrive? Ben, c'est le colonel qui l'a envoyé, il a dit, à vos ordres. Bon, alors on se mettait à mes ordres. Et à un moment donné, donc moi l'objecteur, je me suis retrouvé à faire des cours de secourisme au CRS, aux sapeurs-pompiers du Vaucluse, faire passer les examens. Alors moi j'étais surpris, moi objecteur, j'étais assis à mon bureau, tout d'un coup il y avait un CRS qui venait passer son examen, il se mettait debout, garde à vous, ta. Bon, j'ai dit repos, hein, quand même. Bon, alors je faisais passer les examens. À un moment donné, il y avait plusieurs gros feux. Alors on coordonnait les feux. Alors le colonel me dit, tu prends ce feu-là, tu te débrouilles, je veux pas de mort. Je lui dis, il y aura pas de mort. Alors j'avais à droite une compagnie de CRS en renfort, à gauche une compagnie de chasseurs alpins, plus des hélicos pour attaquer sur les crêtes. Enfin le gros truc, quoi. J'y étais, quoi. Bien fou à l'envers, quoi. Bon. Et alors, à la fin des feux, toujours il y a un pot, ou après les examens, etc. Et à ce moment-là, je disais, je suis chrétien, je suis futur pasteur. Alors, au début, il disait, mais c'est un gag. Tu nous as engueulé cette nuit à la radio parce qu'on dormait. Mais j'ai dit, c'est pas parce que je suis objecteur, je vais pas vous engueuler quand vous faites pas votre boulot. Non, mais tu nous racontes des blagues, t'es pas objecteur, c'est pas vrai. Et puis, tu es pasteur. Bon, mais pourquoi? Extraordinaire les contacts que j'ai pu avoir à ce niveau-là. Ben oui, mais le Seigneur a des plans qui dépassent largement nos prévisions. Et c'est là, au début, que j'ai rencontré J.P.O., notre cuisinier, qui était objecteur, pour des raisons spirituelles. Pareil, pas antimilitariste, pas tout craint. Mais lui, il a fait 2 ans de tôle, de prison, au Beaumetre. Parce qu'à ce moment-là, le statut n'était pas là, n'était pas voté. Et à ce moment-là, il fallait payer le prix fort. C'est-à-dire qu'on vous mettait en tôle pour 3 ans, au bout de 3 ans, vous ressortez, on vous mettait un uniforme devant vous. Est-ce que tu mets l'uniforme ou pas? Tu mets pas l'uniforme, 3 ans de plus, boum, renvoyé. C'était ça. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'histoire de Le Coin. Bon, Le Coin était un anarchisme et non violent. Bon, pareil, alors on le sortait, mettait dans un uniforme. Alors je crois qu'il a fait 15 ans, 20 ans, enfin un truc dingue. Le statut n'était pas voté. Et qui a fait voter le statut? Je vous le donne en mille. Charles de Gaulle. C'est Charles de Gaulle qui a fait pression sur la Chambre en disant « on ne peut pas garder ce problème-là, il faut le résoudre ». Donc des fois, les militaires peuvent être intelligents. Alors j'ai fait aussi des conférences chez CRS sur les jeunes. Alors ils partaient sur les plages, alors ils avaient besoin d'avoir quelques conseils intelligents, pédagogiques et tout et tout. Et alors, comme moi, j'avais dans mon groupe de jeunes à Avignon, j'avais le fils du colonel du régiment là, de CRS, on se connaissait bien, il m'a dit, vous pourriez pas venir parler aux jeunes, parler plutôt à mes CRS des jeunes? J'ai dit, ben si, moi je suis pas raciste. Hein. Bon, alors on y va. Bon, alors là, c'était extraordinaire aussi, les contacts. Puis essayer de parler de ma foi, etc., dans un milieu, bon, où des fois, c'est pas évident de pénétrer, hein. Alors voilà, le Seigneur, je crois, le Seigneur parle, le Seigneur agit. Je crois qu'il faut vraiment avoir un esprit militariste dans le bon sens du terme. C'est lui le chef. Une fois qu'on a compris ça, la vie est beaucoup plus simple. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Des fois, on a quelques difficultés à le comprendre et à le croire. Environné par des drames, etc. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Puis la deuxième chose, c'est effectivement, c'est lui qui a un plan terrible, terrible, génial pour nous. Mais nous, on traîne les pieds, ben, c'est la Bible, hein, c'est les hommes de la Bible, on le voit bien, ils ont toujours quelques difficultés. Nous avons quelques difficultés. Mais son plan est extraordinaire. Et son plan se résume. Moi, quand je regarde avec le recul, je me dis, le Seigneur est en train de me goupiller des systèmes de ce type, actuellement. Bien entendu, parce que sinon, je passerai mon temps à regarder dans mon rétro. Hein. Non, non, pare-brise. Rétro, pare-brise, obligatoire. Rétro, plutôt, petite surface par rapport au pare-brise. Il y a des gens qui confondent. Ils ont un pare-brise qui a la taille du rétroviseur et un rétroviseur qui a la taille du pare-brise. Alors là, effectivement, c'est difficile de rouler, sinon de faire des courses en marche arrière, peut-être. Hein, plus j'avance, plus je recule, enfin, je veux dire, hein, retraite élastique, hein, spirituelle. Le Seigneur a un plan pour nous et un plan de joie, de paix, de compassion. Je vous invite à chanter Cantique 419, les trois strophes. Et puis, Jésus parlait en parabole. Certains ne comprenaient pas. Même ses disciples, les apôtres, et il fallait parfois que Jésus explique la parabole. De manière que ceux qui devaient entendre, entendent, et que ceux qui ne devaient pas entendre, n'entendent pas. Compliqué à comprendre, ça. Comme si le Seigneur ne voulait pas que tous les hommes soient sauvés. Non. Jésus dit comme ça. Un parachute, c'est un énorme, un gros sac à dos que vous avez dans le dos. Vous montez dans un avion, et puis à un moment donné, on vous dit, alors l'avion il est à 300 mètres à peu près, il peut rouler à 300 à l'heure, bon, on vous dit, ben saute. Bon, mais alors les premiers sauts, bien entendu, gagent avec les nouveaux petits qui arrivent là. Bon, t'aurais dû te raser ce matin. Ah bon, pourquoi? Ben parce qu'un mort, c'est tellement difficile à raser. Ça met à l'ambiance. Oui, en sortant surtout, mets la clé sous le paillasson. Bon, etc. Bon. Non, c'est pour mettre l'ambiance hein, dans l'avion. On est angoissé total. On est angoissé total parce que la marche est grande. Hein. Ils me disent, faites gaffe, hein. Fais gaffe, la marche est grande, 300 mètres. Bon, et il n'y a que le sac à dos. On se dit, Seigneur, où suis-je? Mais pourquoi j'ai décidé de monter dans cet avion? Bon, maintenant, je ne peux plus redescendre avec lui. Bon, voilà. Le parachute, ça fait 60 mètres carrés. À peu près 8 sur 8. Vous voyez, ça fait grand, hein. Le sac à dos, quand vous êtes dehors, dans le vide, peut s'ouvrir. Et tout d'un coup, vous avez 60 mètres carrés qui freinent votre chute. Et vous descendez, pas tranquillou, mais vous descendez pas trop vite. De manière à pouvoir arriver quand même, pas trop cassé en morceaux, en bas. Ça, c'est la foi. Vous savez, la foi qui ne sert à rien. La foi en conserve, la foi qu'on a mis au congélateur, parce que quelqu'un nous a donné notre foi, nous a passé notre foi, nous a permis. Alors on la met au congélateur, mais surtout on ne l'utilise pas. La foi ne peut pas servir si elle n'est pas utilisée, comme le parachute. Si dans l'avion je veux ouvrir mon parachute, je ne peux pas ouvrir mon parachute dans l'avion. Il faut que je sorte dans le vide. Je me jette dans le vide. Quelqu'un avait parlé de se jeter dans le vide, je crois hier. La foi c'est ça. Et souvent, nous, on se dit, oui, ça va très bien, la foi, je sais, je comprends, etc. Non, tant qu'on n'est pas sorti dans le vide, donc dans le risque, d'une certaine manière, dans la mort. Parce que si vous n'avez pas de parachute, ça fait plat de nouilles à l'arrivée. Hein. Il faut ramasser à la serpillière. Hein. Bon, ou la petite cuillère. Non, il faut sortir dans le vide pour que ça s'ouvre. Première illustration, peut-être, de la foi. Je pense que l'avion, c'est notre monde en perdition. Alors, il y a toujours des gens dans l'avion, ben oui, qui disent, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on saute? On saute pas. Il y a ceux qui restent dans l'avion qui disent, de toutes les façons, ça va aller, l'avion va pas s'écraser, boum, l'avion s'est écrasé, trop tard. Il y en a qui quittent l'avion, mais qui n'ouvrent pas le parachute. Parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Parce que je vous expliquerai comment ouvrir le parachute. Ah oui, ils sautent. On verra bien ce qui arrive. Pouf, fini. Bon, et puis il y en a qui sautent avec leur parachute. Alors il passe la porte, se jette dans le vide, ça s'ouvre. Extraordinaire, une image extraordinaire, un silence extraordinaire parce que l'avion disparaît petit à petit. Donc on se retrouve dans un calme terrible. Ah, non, j'étais pas chrétien quand j'ai sauté en parachute. Mais alors, ça me laisse des souvenirs au niveau spirituel formidables. Non, c'était avant Chambéry. Alors, le truc, c'est qu'il y a trois catégories de personnes dans cet avion. Alors, comment le parachute va s'ouvrir? Alors, les professionnels du parachutisme ont des parachutes qui s'appellent la commande. Enfin, c'est eux qui les commandent. Alors, on sort de l'avion, on se met comme ça, on plie une jambe, boum, on se met en torche, tout. Et puis, à un moment donné, quand même, pas trop près du sol, on tire une poignée, boum, ça s'ouvre. D'accord? Mais nous, on n'a pas fait ça, quand même. Non, nous, c'était automatique. Donc, du sac à dos, derrière, là, il y a une sangle. Au bout de la sangle, il y a un mousqueton. Alors, il faut accrocher le mousqueton à une static line. La static line, c'est un câble qui, dans la carlingue de l'avion, va depuis le devant de l'avion jusqu'à l'arrière. Donc, on se met à la queue leu-leu. Chacun attache son mousqueton, sa sangle, sangle d'ouverture automatique au truc. Et puis quand il y a alors il y a des feux rouges, et puis tout d'un coup il y a un feu vert, alors il y a un truc psychologique terrible, il y a une sorte de klaxon, il fait tellement de bruit que vous avez envie de sortir. Ça aide, non ça aide, hein, vraiment. Alors le truc, tout le monde est avec le mais alors, quand l'avion fait 300 à l'heure, si les gens sautent toutes les 10 secondes, au sol on va se retrouver complètement éparpillé, donc il faut sauter vraiment collé. Donc le dernier, il fait un départ de 100 mètres quand le premier commence à sauter. Et le mousqueton suit, d'accord? Puis la sangle déchire le sac, le parachute s'ouvre. Static line. Une ligne qui ne bouge pas. Si vous n'êtes pas accroché sur cette ligne, vous pouvez sauter en parachute, plat de nouilles. Ça ne sert à rien. Parachute ne peut pas s'ouvrir. Image. Jésus, static line, qui ne bouge pas. Vous accrochez votre mousqueton, c'est pas quelqu'un qui va vous l'accrocher pour vous. C'est vous qui allez l'accrocher. Ça veut dire que l'avion perd de l'altitude, on vous dit les deux moteurs sont en flammes, on vous dit on n'a plus d'essence pour arriver, vous sortez, parachute s'ouvre. Static line, je crois que c'est très important ça. Et deuxième chose, l'important, et je terminerai là-dessus, parce que sinon il m'a arraché la tête, non, pas trop. C'est vraiment, c'est vous qui devez accrocher votre mousqueton. Alors, bien entendu, il y a quand même des amis, des gradés, etc., qui sont là, qui veillent quand même que vous avez bien accroché votre mousqueton. Sinon, ça ferait désordre quand même à l'arrivée. Peut-être une autre image. La tradition parachutiste veut que le plus gradé dans l'avion saute le premier. Vous savez, il y a dans certaines armées, en avant, je vous suis. Il y en a d'autres, suivez-moi. Non, là, c'est le plus gradé qui saute le premier. Je me rappelle un souvenir inoubliable, un vieux général parachutiste. Je ne sais pas quel âge il avait, moi j'avais 18 ans, je sais pas, il me semblait très vieux. Alors il était venu avec nous faire les exercices d'assouplissement avant qu'on saute en parachute. Parce que, bon, on s'assouplit, on va pas tomber comme ça à froid, quoi. Et alors, ce vieux général était dans l'avion, et alors le gars qui dirigeait le truc, alors c'était un lieutenant, qui dit, mon général, à vous l'honneur. Le général se met le premier, pour accrocher un truc. Je trouvais ça génial, comme image. Qui c'est qui a sauté le premier pour nous? C'est quand même le Seigneur qui a été parachuté sur cette terre, j'allais dire un gros mot, je me suis retenu. C'est quand même le Seigneur qui est venu. Le premier parachuté, le plus gradé. Et il nous dit, suivez-moi. J'ai ouvert le chemin, j'ai ouvert une piste, j'ai ouvert les portes, vous n'avez plus qu'à me suivre. Le chemin, quand on dit, tiens Seigneur, on va là-bas, c'est nouveau, etc. Le Seigneur nous a précédés depuis fort longtemps. Quand on est allé dans les bistrots, je dis, mais le Seigneur, il était déjà pénétré dans les bistrots largement avant nous. Les gens qui étaient là, on ne les connaît pas, nous, le Seigneur les connaît par cœur. Il a une parole à leur donner. Nous, notre parole ne suffit pas. C'est la parole qui peut nous inspirer, qui va effectivement les interpeller, les aider à évoluer, les aider à marcher, les aider à comprendre. On jette une graine. C'était Paul qui disait aussi, « Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. » Première épître aux Corinthiens. Le plus gradé parmi les parachutistes, alors je dis, les chrétiens sont des parachutistes. Le plus gradé, c'est Jésus. Le premier qui ouvre la voie, qui ouvre la trace, qui prend le maximum de risques, c'est lui. Peut-être autre image, quand on saute en parachute, on sait d'où on part, en principe, mais on ne sait pas où on arrive. Vous savez, parce que le parachute, il descend verticalement, mais si le vent fait 20 mètres secondes dans une direction, votre parachute, il descend, oui, mais il se décale. Vous avez vu le film sur débarquement, hein, Sainte-Mère-l'Église, les mecs accrochés là, sur le parachutiste accroché sur le clocher. Ben oui, parce que on part, mais où est-ce qu'on arrive? Je me rappelle, premier saut, alors il y avait un certain nombre d'officiers qui étaient venus voir le résultat de l'entraînement de ces jeunes néophytes parachutistes. Et alors on a été largués, bon, j'étais à Orléans, on a été largués, et alors on est arrivé, le vent nous a poussés directement sur, je sais pas, ils étaient une quinzaine, qui regardaient. Mais il a fallu qu'ils évacuent vite fait. Parce que nous, sinon, on a ramassé un coup de botte dans la gueule. Je veux dire, nous, on descendait, hein, je veux dire, on arrivait, on pouvait pas, nous, on pouvait pas manœuvrer, on manœuvre un peu, mais pas plus. Le vent souffle où il veut, tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Et un homme mené par l'esprit, il sait d'où il vient, mais le Seigneur sait où il va. Ça, je crois que c'est très important aussi. Alors nous, on fait nos pronostics. Il n'y a pas de profil de carrière hein, pour les chrétiens, vous savez. Le profil de carrière, il est déjà fait, il n'y a pas besoin d'inventer. Hein. Le Seigneur le sait. Et puis peut-être, dernière chose, et je terminerai là-dessus, quand on a sauté en parachute, on ne peut pas revenir en arrière. C'est difficile de rattraper l'avion. C'est pas possible. Et des fois, dans notre vie spirituelle, bon, à un moment donné, on a vécu quelque chose de très fort avec le Seigneur. De temps en temps, le Seigneur nous met des petites fleurs sur notre route. Vous avez remarqué? Mais pas tous les jours. Pas obligatoire. Ce n'est pas un chemin de rose. Chemin étroit et rocailleux qui monte et au cagnard. C'est ça qui est écrit, non? Alors de temps en temps, quand on est trop en sueur, quand on est trop fatigué, quand la tête n'arrive plus à fonctionner, quand notre courage baisse, le Seigneur nous met un bouquet de fleurs sur notre route. Quelqu'un l'a raconté, hier je crois, sur ce bouquet de fleurs, cette rose, dans un pays où ne poussaient pas les roses et tout d'un coup il y a une rose. Ben, dans notre vie, bien entendu que le Seigneur nous met des fleurs, quand on en a besoin. Parce que s'il vous donne une rose, lui qui est illimité, bien entendu, mais je dirais, on pourrait dire, Seigneur, réserve plutôt la rose que tu m'as destinée à quelqu'un qui en a encore plus besoin que moi. Quelqu'un qui est encore plus en difficulté. Quelqu'un qui, au niveau de sa foi, est encore plus embourbé que moi. Et alors le Seigneur nous met des roses. Alors quand on voit une rose, qu'est-ce qu'on dit? C'est beau, une rose. Mais que celui qui a fabriqué la rose, qui a conçu la rose, est encore plus fort que la rose. Donc merci Seigneur pour les petits signes que tu mets. Alors les roses ont des formes différentes. Ça peut être une parole tout d'un coup d'encouragement qui nous est donnée. Ça peut être tout d'un coup un texte biblique qu'on n'avait jamais rien compris. Tout d'un coup. Tu dis, mais oui, ça y est, j'ai pigé, j'ai compris. Mais oui. Ben oui, Seigneur t'a dit, il vous dit, ben, ça fait 20 fois que je te le répète, mais bon, mieux vaut tard que jamais. La petite rose sur nos chemins. On ne revient pas en arrière. On ne peut plus revenir en arrière. Et parfois, il faut avoir le geste de Guillaume le Conquérant, brûlant ses vaisseaux pour éviter d'avoir la tentation de revenir en arrière.